Cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard le 6 octobre 1994.
L'évolution au plan théologique, philosophique et scientifique. théologien protestant, intelligent, merveilleux. Je lui ai demandé de lire, au point de vue scientifique, ce qui était dit sur la science, au point de vue évolution. Ça m'intéressait. Je voulais faire ça honnêtement. Alors, il m'a dit en riant, moi, en tant qu'histologue, je suis contre l'évolution. Je la constate pas. Je la constate pas. C'est impossible de constater ça. Je n'ai jamais vu. L'espèce dans la vie est quelque chose d'extraordinairement tenace. Et la finalité de l'animal, c'est de se reproduire en espèce. C'est possible que l'évolution. Alors, moi, en tant que savant, je dis l'évolution est une théorie philosophique. Alors je dis, et les philosophes disent que c'est une théorie scientifique. Alors il s'est bien éclaté de rire. Ouais, ça arrive comme ça, vous savez qu'on se renvoie la balle. Parce que le philosophe, il peut, quand il parle de l'évolution, il ne la constate pas. Il constate des changements, des modifications, mais l'évolution au sens fort. Le passage d'une espèce à l'autre, le passage de l'animal à l'homme, ça n'a d'intérêt que là. Est-ce qu'on peut philosophiquement parler de là? Vous voyez, c'est une question qui philosophiquement est périphérique. Il faut toujours distinguer au point de vue philosophique les questions qui sont philosophiques et les questions qui sont périphériques. Parce qu'autrement, on vous fourre ces questions-là pour dire tout ce que vous dites, mais l'évolution ne fait pas comprendre ce que c'est que la vie. Il faut d'abord comprendre ce que c'est que le vivant. Qu'est-ce que c'est que le vivant? C'est ça que le philosophe s'intéresse. Et comme le philosophe a la possibilité d'étudier en lui-même le vivant, il est pour lui le vivant le plus parfait. Qu'il peut expérimenter. Je n'expérimente pas la vie des anges. Je n'expérimente pas la vie des araignées. Je les regarde. C'est intéressant de regarder une araignée. Vous voyez, qui a un gendarme. Et dès qu'une mouche tombe dans la toile d'araignée, il se précipite. Il la pique. Il la mange. Il suce son sang. C'est extraordinaire. Il suce son sang. Et là, tombe un petit cadavre. Un petit cadavre. Vous avez déjà vu une mouche tombant d'une toile d'araignée. C'est un pauvre petit cadavre, il n'y a plus de sang. Plus rien. Je comprends que c'est intéressant, les mœurs des animaux, c'est extrêmement passionnant. C'est ce qu'il y a de plus reposant. Regardez les mœurs des animaux. Et c'est beau, c'est grand, c'est admirable. Mais ça ne me fait pas comprendre ce que c'est que la vie. On ne définit pas la vie. On cherche à saisir ce que c'est que la vie. Alors, vous voyez, tout ce qui est périphérique, laissons-le comme des questions périphériques qui, de fait, sont des notions de critique. Jusqu'où pouvons-nous connaître la vie de l'animal? C'est une question très intéressante au point de vue critique. Alors là, ce sera la réponse à ça. Jusqu'où pouvons-nous connaître le virus? C'est très... Vous voyez, tout ce qui est parasite, qui n'est pas le vivant se reproduit. Vous voyez, il se meut. Et le sémovere parfait, c'est la génération, la reproduction. Un vivant qui ne peut pas se reproduire, mais il y a des limites. Alors on dit, il n'y aura pas la perfection de la vie. C'est la perfection de la vie qui se reproduit. Il y a des obstacles. La finalité du vivant, c'est la reproduction. Comme vivant, biologiquement. Comme vivant, spirituellement, c'est autre chose. Il y a une autre fécondité. Donc vous voyez, ces questions-là, voyez toujours les questions périphériques qui sont les questions du venir. Le philosophe étudie ce que c'est que le vivant. Et c'est pour ça qu'il étudie ce que c'est que le vivant par rapport à lui-même, puisque j'ai une expérience sui generis de ma vie. En vous parlant, j'ai l'expérience sui generis de ce que c'est que la parole. La parole vivante, pas la parole morte. La parole morte, c'est lorsque vous lisez quelque chose que vous avez écrit. Tandis que la parole vivante, c'est le jaillissement même de votre vie, de pensée. Que vous découvrez les petits pains chauds qui sortent du four. Alors c'est une parole vivante. Tandis qu'au contraire, la parole morte, c'est la répétition. C'est pour ça que l'Esprit Saint n'aime pas les répétitions. Bon, alors continuons de comprendre cette expérience privilégiée que j'ai de ma vie. Ça, là, personne ne peut me déloger de là. Et donc, la condition sine qua non pour que la philosophie du vivant apparaisse comme quelque chose d'original. Et vous voyez, Aristote est le premier comme philosophe du vivant. Il n'a pas été jusqu'au bout. On peut aller plus loin que lui. Il a mis le vivant dans la philosophie de la nature. C'est vrai, c'est pas faux. Mais le passage, voyez, la philosophie de la nature, les éléments et la philosophie du vivant a quelque chose de nouveau au point de vue méthode philosophique. Je n'étudie pas de la même façon l'eau, le feu, les quatre éléments et le vivant. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose de nouveau dans l'expérience du vivant. C'est pour ça que je fais ma philosophie du vivant indépendamment des instruments, microscopes et compagnie. Merveilleux, étonnant. Mais des opérations étonnantes. Les opérations au cerveau qui se font sous microscope, les opérations à l'œil qui se font sous microscope. C'est extraordinaire, ça. Mais parce que on ne touche et on est opérable que grâce à la quantité. La vie refuse l'opération. Mais la vie qui implique la quantité permet l'opération. matière vivante, elle est justement quelque chose d'autre que la matière non vivante. Ça, c'est la réponse, vous voyez, à cette question posée. Mais à quel moment je suis en face uniquement de la quantité du monde physique et quand suis-je en face du monde des vivants? C'est pas comme moi du tout. Puisque notre monde, notre petite terre, est transformé par le vivant. Le vivant a transformé toute la matière. Je suis toujours en face d'une matière vivante. Et c'est ce qui explique qu'au Moyen-Âge, on parlait de des générations spontanées. La génération spontanée, vous savez bien, c'était les petites grenouilles. Il faut lire Albert le Grand pour ça. Albert le Grand montre que le fond de la vase, il y a des œufs, le soleil chauffe, apparaît, non pas un éléphant, mais un divers. Hein, on sait bien, quand le fromage se met à couler, hein, il coule tout seul, c'est mauvais.
Et on le sait, ce qui est
C'était, je crois, en 85, 1985. Que sera le De Gaulle de la France en 1985? C'est curieux comme chose. Grâce à Dieu, j'en connaissais deux qui étaient dedans. C'est comme ça que j'étais au courant. C'était intéressant de réfléchir sur le progrès de la science. Alors, il y avait le biologiste. Le progrès de la science va tellement loin que peut-être qu'en 85, on l'a dépassé maintenant, en 85, on pourra, c'était la question posée, on pourra à De Gaulle qui dit la France est dans un tel état lamentable qu'il faut à tout prix produire 4 Mozart. Point de vue art. Pas seulement dans la musique, mais analogue à Mozart, des petits génies, pour relever le prestige de la France. Parce que c'est tellement beau, ça dégringole, ça dégringole, ça dégringole. Alors le savant, qui était Jean Bernard, à cette question qu'on lui a posée, il a dit, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas si en l'an 1985, on ne pourra pas répondre à De Gaulle. On va vous fournir 4 génies dans les différents domaines, évidemment, pour relever le prestige de la France. Je sais pas. Peut-être, peut-être. C'était intéressant de voir ça. Hein. Ils ne savaient pas, ils ne pouvaient répondre pas. Toujours est-il que c'était les progrès de l'industrie pharmaceutique. C'est l'industrie pharmaceutique qui marche le mieux, n'est-ce pas? Et en Suisse, ça marche très bien. L'industrie pharmaceutique, c'est l'industrie pharmaceutique qui a fait un rapport tel que De Gaulle lui-même n'a pas osé le publier. Tellement c'était formidable de pouvoir faire que les gens soient toujours de bonne humeur. Vous voyez, il y a une pilule bonne humeur, prescrite tous les jours. Prescrite tous les jours, parce que la Camac de ce temps-là donnerait à toutes les congrégations religieuses tous les jours, ou bien c'est des pilules pour 15 jours, donnerait des pilules de bonne humeur. La pilule euphorique. Parce que si c'est ça qui est important, on serait tous euphoriques. On serait des caves, mais euphoriques. On trouverait que c'est parfait. Mais alors, tout ça, c'est très très bien. Il faut loger dans la catégorie qui ne m'intéresse pas directement au point de vue philosophique. C'est pas ça qui va faire comprendre ce que c'est que la vie. Là, c'est les modifications de la vie. C'est l'aspect chimique par où je peux intervenir. L'aspect quantitatif. Et puis alors, il y a la psychologie. Oui, c'est les deux aspects sur lesquels la philosophie du vivant doit tout le temps être attentive. Elle n'est pas la biologie, elle n'est pas la psychologie. Or, la psychologie et la philosophie, la science biologique ont cours. Et la médecine moderne est fondée sur la science biologique. Or, la médecine est un art. Plus qu'une science, c'est pas une science, c'est un art. Et de plus en plus, elle devient une science des spécialistes. Donc c'est l'aspect scientifique qui l'emporte. Et l'aspect art, de moins en moins. Et l'art se fonde sur une connaissance. Et la connaissance de l'homme, puisqu'il s'agit de soigner son corps. Est-ce que l'âme, la connaissance de l'âme, n'est-elle pas nécessaire pour connaître le corps de l'homme? passage où Aristote dit que on ne peut pas connaître le corps de l'homme si on ne connaît pas son âme. Nous verrons ça au point de vue philosophique. Si je ne connais pas l'âme, je ne connais pas le corps humain. Alors il a entendu ça. À la fin, il m'a dit, mais mon doctorat en biologie ne signifie rien du tout alors sur la connaissance du corps. Parce que j'ai fait la connaissance du corps sans parler un seul instant de l'âme en sciences biologiques. Vous voyez, c'est un véritable espagnol très croyant. Il voulait se donner entièrement au Seigneur. Il avait tout de suite saisi. Alors il dit oui, c'est la cause matérielle. Mais la cause matérielle qu'on étudie pour elle-même, sans la cause formelle, c'est très dangereux. On en fait un idole. Vous voyez comme ces choses-là qu'on doit se poser la question hein, dans la philosophie du vivant. Si on ne se pose pas la question du vivant, on ne comprend rien du tout. Pourquoi le philosophe a tout de suite cherché l'âme? Et pourquoi le biologiste, la science biologique, ne regarde absolument pas l'âme? Alors qu'atteint la science biologique, qu'atteint la philosophie? Ceci est vrai pour les rapports entre la philosophie du vivant et la science biologique. Et ceci est vrai pour les rapports entre la philosophie de l'esprit et la psychologie. La psychologie étudie la cause matérielle de notre psychisme, ce qui est mesurable. L'aspect matériel et quantitatif. Et le philosophe étudie la finalité par le point de vue de l'âme. Alors on est constamment en face de ce problème très délicat. Quels sont les rapports de la science biologique et de la philosophie? Quels sont les rapports de la psychologie et de la philosophie? Alors sache, ceux qui, entre parmi vous, ont fait des études de sciences biologiques assez poussées, ceux qui ont fait des études de psychologie assez poussées, soyez très attentifs pour ne pas mettre sur le même niveau de l'intelligibilité de la science biologique et la science psychologique que le point de vue de la philosophie du vivant. Mais comprenez qu'il y a constamment des interférences. Alors qu'apporte et que peut apporter la science biologique aux philosophes? Philosophe du vivant. Que peut apporter la psychologie au philosophe du vivant? Il faut distinguer. Ça, c'est capital. Et puis ensuite, voir où y a-t-il possibilité d'intégration. C'est très important. Et c'est capital, ça. Je ne peux pas répéter la philosophie d'Aristote. Ce serait stupide. Mais je dois faire une philosophie du vivant, qui est la philosophie de l'homme vivant. Et je dois la faire en tenant compte du progrès des sciences biologiques qui, durant ce siècle, ont été prodigieux. expérience propre de ma vie me permet de regarder ce que je suis comme vivant. Première question. Ce que je suis comme vivant, je cherche qu'est-ce que c'est que le vivant. Vous voyez la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Qu'est-ce que c'est que le vivant ? Ou qu'est-ce que c'est que la vie ? Puisque le vivant c'est concret et la vie c'est abstrait. La vie c'est ce par quoi le vivant est vivant. La blancheur c'est ce par quoi le blanc est blanc. L'être c'est ce par quoi ce qui est. Ce par quoi ? Donc le principe. Le principe selon la forme. Qu'est-ce que c'est que la vie ? À partir de l'expérience du vivant. Et le vivant, l'expérience du vivant, c'est moi. C'est la différence avec l'être. Pour la philosophie du vivant, je suis coincé. Je pars de moi. Parce que je n'ai l'expérience particulière du vivant qu'à partir de moi. Je m'aperçois, tout simplement, que mes opérations vitales sont extrêmement variées. Faites le petit inventaire de votre journée au niveau du vivant. Vous vous êtes réveillé ce matin, j'espère. Vous êtes réveillé, je ne dis pas comment, au milieu d'un cauchemar, au milieu d'un rêve merveilleux qui vous mettait dans le ciel. Vous êtes réveillé ce matin. Ou naturellement, ou artificiellement. Vous avez entendu le réveil. Puis vous avez prié. Alors vous êtes d'abord éveillé pleinement. Puis vous avez été prié. Puis vous avez chanté les laudes. Puis vous avez pris. Ah non, il y a eu un cours de temps en temps. Puis le petit déjeuner. Bon, toutes les opérations vitales de la journée. Sont très nombreuses. C'est toujours vous. Il y a une unité dans toutes ces opérations vitales. Mais elles sont toute la gamme. Depuis la prière jusqu'au petit déjeuner, c'est quand même pas la même chose. Depuis la prière, le chant liturgique et le petit déjeuner, la philosophie que vous avez suivi, vous avez essayé de comprendre, vous êtes agrippé, et ainsi de suite. Vous voyez que toutes ces opérations, c'est vous. Et vous ne mettez pas en doute que c'est vous. Et vous pouvez subir une opération, être mutilé quant au bras, ou bien quant à la jambe, il y a toujours quelqu'un dans la communauté qui a des béquilles pour l'exemple, vous voyez, c'est un titre d'exemple, ça, la providence fait que il y a toujours quelqu'un pour montrer qu'on a perdu son agilité, c'est évident. On a perdu son agilité. C'est difficile de donner un coup de pied à quelqu'un quand on a ça. Non, on essaie de garder son équilibre comme on peut. Et on voit chacun comme